Nous allons reprendre donc ce matin la lecture du texte de Pierre au premier chapitre. Nous lirons en tout premier lieu les versets 13 à 16 pour le rappel, puis nous continuerons jusqu'au verset 21. C'est pourquoi, en raison de tout ce qui précède, ceignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Nous avons chanté tout à l'heure, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Lorsque nous avons terminé la semaine, il y a 15 jours, la lecture de ce passage, après le moment de méditation, j'ai terminé en rappelant que notre conduite engage notre Père céleste. Et parce qu'elle l'engage, notre conduite doit être marquée de son empreinte. Dieu nous a rendus participants de sa nature. Et ce faisant, il nous rend participants de sa sainteté. Vous serez saints car je suis saint, précise le texte. Ainsi, on doit pouvoir dire de nous, tel père, tel fils. Et dans la suite de la lecture, ou plutôt dans l'optique de ce texte, j'invoquais la grâce de Dieu pour que nous puissions ensemble, avec lui, nous engager dans un nouvel exode. Nous poursuivons la lecture. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Si, et si, commencent et introduisent les paroles du verset 17. Non point comme étant une éventualité, mais comme mettant l'accent sur une réalité. Il est fréquent dans notre langage de dire à quelqu'un qui vient vers nous, si tu viens, prends ceci ou prends cela. Nous voulons lui dire, puisque tu viens, prends ceci ou prends cela. Nous ne l'envisageons pas comme une éventualité, nous le présentons bien comme une réalité. Ainsi, nous nous rendons compte que ce puisque est mis en évidence comme étant la démarche naturelle d'hommes et de femmes qui invoquent leur Père. Puisque vous invoquez le Père ou votre Père, puisque vous vous approchez de lui dans la prière, puisque vous vous réclamez de sa paternité, paternité d'ailleurs, que Dieu accepte. Nous allons nous y arrêter dans un instant. Eh bien, vous devez agir en conséquence. J'aime bien l'expression invoquer qui reçoit dans le texte de Actes 25, 11 une traduction à laquelle nous ne sommes pas habitués. Lorsque l'apôtre Paul est, lorsqu'il reçoit l'offre d'être déplacé à Jérusalem pour comparaître devant le Sanhédrin, il refuse la chose en disant « Vous n'avez pas le droit de m'exposer ainsi à la vindicte juive, je suis romain, et en tant que tel, j'en appelle à César. » C'est le même verbe qui est utilisé. Celui qui ici est traduit par « invoquer » est traduit dans le texte d'acte par « en appeler à ». Eh bien, puisque vous en appelez à votre Père céleste, dans les circonstances qui sont les vôtres, celles propres aux lecteurs, celles qui nous sont propres aussi. Puisqu'il en est ainsi, en conséquence, et la suite va se faire jour. Donc, l'approche de Dieu, faite comme une approche envers un père. Je disais il y a quelques instants que Dieu accepte cette paternité ou cette parentalité. Nous sommes rendus participants de sa famille. C'est par lui que cette parentalité a été proposée, qu'elle a été offerte et qu'elle a été rendue possible. Qui ne connaît ce beau passage de l'épître de Jean, au chapitre 3 ? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Donc Dieu accepte cette réalité. Dieu, celui qui est présenté dans 1 Pierre 1 comme étant le Père, au verset 2, un peu plus loin comme étant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et ici comme étant le Père des disciples, des enfants de Dieu. Ce Dieu-là est un Dieu qui assume pleinement le lien qui nous unit à lui, ou qui l'unit à nous. Et je rappelais tout à l'heure simplement qu'il nous a rendus participants de sa nature, il nous a communiqué quelque chose de lui. Il ne peut donc pas nous renier, et lorsque nous venons à lui, en l'invoquant, en faisant appel à lui en tant que fils, il nous écoute en sa qualité de Pierre, de Père. Et Pierre exhorte alors ses disciples, les lecteurs, à entrer pleinement dans cette filiation. Une filiation qui est telle envers un Dieu qui est tel qu'elle ne permet qu'elle n'autorise ni familiarité, ni laisser aller. Car notre Père, ce Père, n'est autre que le Dieu Tout-Puissant. Il n'est autre, dit le texte, que le juge. Le juge de toute la terre, y compris le juge des enfants de Dieu, le juge de ses enfants. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux conditions. Oui, Dieu est Père, oui, Dieu est juge. Il est notre Père, il sera notre juge. Nous avons parfois de la peine à voir ces deux choses ensemble, et pourtant, elles sont une réalité que l'Écriture nous présente, une réalité dans laquelle nous devons de vivre. Ce Père, ce juge, est appelé à examiner des faits. Il est dit ici qu'il va juger, qu'il doit apprécier ce que sont les œuvres de chacun. C'est bien ce qui est écrit. Il agira selon, il jugera selon l'œuvre de chacun. Le mot qui est ici traduit par œuvre est quand même assez clair, assez précis. Il s'agit bien de travail ou d'action accomplie. Il s'agit de faits. Dieu va juger les faits qui ont constitué notre existence. Et il le fait, dit le texte biblique, sans complaisance, de façon impartiale, sans aucun parti pris. En voyant arriver un de ses enfants, il ne va pas se dire, ah, voilà un des miens, je vais donc être usé de clémence, de mansuétude, il m'appartient. Non, Dieu ne favorisera personne, car s'il agissait ainsi, n'affadirait-il pas la grâce? La conduite de l'enfant de Dieu doit être telle qu'il doit toujours être prêt à se présenter devant le Seigneur pour le jugement annoncé. Ainsi, nous est-il précisé, et là, nous réagissons sans aucun doute les uns et les autres, que notre conduite doit se faire dans la crainte. Nous pouvons être surpris, à juste titre. La crainte doit marquer notre manière de faire, notre manière d'agir. Pendant un temps que nous ne saurions estimer, mais dont nous savons qu'il commence au moment où nous lui appartenons et qu'il s'achève au moment où nous comparaissons devant lui, où il nous rappelle. C'est le temps, appelé ici le temps de notre pèlerinage. Dans une traduction littérale, ce serait le temps de notre séjour à l'étranger. Belle image que celle-là. Nous sommes loin de chez nous. Et pendant ce temps d'éloignement de notre maison, nous devons vivre de manière à ne pas offenser notre Dieu, à ne pas compromettre son nom, à ne pas donner de prise aux malins ou à ceux qui nous entourent, pour qu'ils puissent dénigrer le nom de notre Père. Et c'est en cela que la crainte doit nous animer. Pas parce que nous avons peur de rencontrer Dieu, mais parce que nous craignons de l'offenser. Parce que notre préoccupation est de rechercher ce qui l'honore, ce qui lui fait du bien. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir la peur du gendarme. C'est être pénétré par l'amour qui nous motive dans le désir de ne pas faire ombrage à sa réputation. Et cela, bien sûr, afin de ne pas avoir à rendre compte à notre juge. Si effectivement notre conduite reçoit l'approbation céleste, la confrontation avec le juge n'est pas à craindre. Ce qui est à craindre, c'est tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, justifierait des reproches, des rappels à l'ordre. Cette crainte ne peut pas être un sentiment qui passe, passager. Un sentiment fugace, il marque au contraire toute l'existence du peuple de Dieu. Je disais tout à l'heure, il commence à un moment donné et s'éternise, se prolonge, pardon, tout au long de ce temps de séjour à l'étranger. Voici comment l'apôtre Paul traite de cela. Dans 2 Corinthiens, je lis au verset chapitre 6 et au verset 17. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous serez pour moi, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voyez que le mot revient ici. Alors, Paul y ajoute cette exhortation, ayant donc de telles promesses, celle de l'accueil, celle de la paternité, celle de la filiation vécue par le disciple, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le mot revient. Mais je répète bien, ce n'est pas celle de la peur, mais celle d'un saint respect de celui qui nous a adoptés. La vie du disciple se déroule dans la grâce, cette grâce qui lui permet d'avoir une pleine espérance dans sa manifestation à venir. Nous l'avons lu un peu plus haut. La grâce, l'espérance qui sont là, sont celles qui vont permettre de vivre de la bonne manière, d'une manière positive, notre crainte de Dieu au travers de notre conduite. Ainsi, et seulement en tenant compte de ces éléments, nous serons préparés à la comparution devant le Seigneur. Il nous faut tous, dit Paul, comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. D'où l'impérative nécessité de prendre garde à la manière dont nous construisons sur le fondement qui a été posé. Je vous renvoie ici à la lecture d'1 Corinthiens 3, versets 10 et suivants. La grâce, dit un commentateur de ce texte biblique, la grâce se déploie aussi dans le jugement sur les œuvres. C'est-à-dire qu'au moment de comparaître devant Dieu, la grâce est aussi présente. Pourquoi? Parce que la grâce ne peut atteindre l'homme que dans la mesure où il est condamné, que dans la mesure où il est répréhensible. Donc si nous allons au-devant de cette rencontre qui pourrait nous effrayer, allons-y accompagnés par la grâce de Dieu, car s'il nous arrive d'avoir à être repris, ce qui à mon avis ne fait aucun doute, nous ne pourrons compter que sur la bienveillance et la grâce de notre Dieu et de l'intervention de notre avocat, le Seigneur Jésus-Christ. C'est donc dans ce contexte où même la présence du jugement nous conforte dans la manifestation pleine de la grâce qui se fera à ce moment-là. Ainsi, dans ce contexte-là, arrêtons-nous un petit instant au début du verset 18. Avec cette expression « sachant que », c'est ce qui vient confirmer ce qui précède. Parce que l'espérance qui nous anime, elle est fondée sur quelque chose. Ce quelque chose, ou c'est quelque chose, car il s'agit de choses au pluriel, si j'ose dire, c'est ce que nous savons. Sachant que nous pourrions reprendre d'autres textes bibliques où nous retrouverions la même formulation qui introduit un ensemble d'éléments qui tous font partie du noyau de ce sur quoi se fonde notre foi. Nous pourrions reprendre dans Romains au chapitre 5, un passage d'ailleurs, peut-être vaudrait-il mieux carrément y aller, dans Romains 5, voici comment l'apôtre va utiliser la même expression et vous allez voir qu'elle introduit des éléments qui se succèdent et qui font partie de la foi. Chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Sachant que, et se succèdent des éléments qui forment un tout. Vous retrouvez la même formulation au chapitre 6, versets 5 à 7 de Romains. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Et nous pourrions, j'allais dire, pour compléter ces citations, mettre des références bibliques sur les différents éléments qui composent ce sachant que. On pourrait donc dire qu'il correspondrait presque à il est écrit. C'est comme si l'apôtre faisait allusion à des choses écrites dont nous avons connaissance et dont il pourrait nous donner la référence. Ainsi, nous trouvons dans ce court passage les fondements de notre foi. Ce texte est d'une grande richesse. D'abord, il nous montre que l'héritage hérité de nos pères nous dicte notre conduite. Or, cette conduite a pour marque la vanité, dans le sens de vacuité. Nous croyons posséder beaucoup, nous avons un héritage, nous avons un passé, nous avons des choses auxquelles nous pouvons faire référence, mais tout cela, c'est nul, nous dit l'Écriture. Le mot utilisé est traduisible par vain, par futile, mais aussi par orgueilleux et insolent. On est loin de se douter, en lisant le texte biblique, qu'il y a derrière ce mot un tel ensemble ou une telle variété de sens. Tant et si bien que nous pourrions, avec l'Ecclésiaste, dire simplement que tout est poursuite du vent. Ce que nous avons hérité de nos pères, c'est cette agitation qui nous fait courir après le vent, courir après l'inaccessible et terminer notre course avec du néant, rien. Notre besoin d'être tiré d'affaire est évident, puisque nous n'avons rien à présenter devant Dieu à la fin de notre existence, nous avons besoin qu'il intervienne. Et c'est ainsi qu'il est fait allusion ici au rachat, à la rédemption, à la délivrance inaccessible pour nous. Comme le dit si bien, et là vous devez sans aucun doute aussi connaître ce texte, vous qui si bien exprimé, qui exprime si bien dans le psaume 49, la situation des êtres humains. Voici comment le psalmiste parle de ces hommes dans 49, verset 7. Ils ont confiance dans leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Constat déroutant, pour ne pas dire démoralisant. Oui, au niveau humain, aucune solution pour remplacer la vacuité de l'héritage, même les richesses sonnantes et trébuchantes n'ont aucune possibilité parce qu'elles sont elles aussi vaines. Elles sont elles aussi périssables, corruptibles, dit le texte, pour parler de l'argent et de l'or. Le rachat d'une vie vaine ne peut se faire avec des moyens vains, eux aussi. C'est pourquoi, n'ayant rien à présenter à Dieu qui est court devant lui, nous voici contraints soit de nous présenter à vide, soit de nous présenter comme lui l'a voulu, en la personne de son Fils. Et c'est là que le texte, j'allais dire, que l'apôtre prend son essor, semble s'élever, s'envoler, en une description de la réponse divine qui nous émeut et qui nous éblouit. Non pas par des choses périssables, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Quelle parole que celle-là! Le prix du rachat est ici défini pour nous parler de rédemption, de délivrance, puisqu'il y a équivalence entre ces mots. C'est le sang de Jésus-Christ, le précieux sang de Jésus-Christ, qui nous est présenté comme étant la valeur aux yeux de Dieu, ne se dépréciant jamais. Ce sang est versé, disait Jésus, pour le pardon des péchés du monde. Et ce sang a toujours cours aujourd'hui. Le sang de celui qui nous est présenté comme l'agneau. Et l'agneau pascal vient sans doute très vite à notre esprit, comme viendra à notre esprit également le texte d'Ésaïe. Il s'est présenté devant, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Pensant à l'agneau, nous entendons les paroles mêmes de Jean-Baptiste, disant à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Tel est le prix acquitté. Rien moins que le prix du sang, que le prix d'une vie. Et quelle vie ! Celle du Christ, celle du Fils de Dieu. Le Fils unique de Dieu, est-il étonnant qu'il soit qualifié de sang précieux? Don d'une vie qui n'a pas connu le péché. Mais la suite nous montre quelle a pu être la souffrance du Fils, égalée seulement par la souffrance du Père. Ce Fils qui n'a pas connu le péché. Dieu, ou plutôt a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Fait péché! Quel prix pour le Dieu saint! Quelle douleur! quelle situation que celle du Fils qui se donne et du Père qui se détourne de lui. Parce qu'à ce moment-là, il est fait péché pour nous. En Christ, c'est le péché qui est condamné. Est-ce que nous prenons conscience de cette dimension? Cela, à notre place. Peut-être serait-il plus juste que chacun de nous dise « à ma place ». Le nôtre est un très bon cautérisateur des consciences. Il vaut mieux le « je » parce qu'il permet au doigt de Dieu de se pointer sur nous. C'est à ma place que Jésus est mort. C'est là l'énormité du prix payé pour notre salut. Et c'est cela qui, plus, à mon avis, plus que la peur du gendarme, doit motiver notre crainte dans notre marche avec le Seigneur. Oui, notre conduite dans la crainte, sachant à quel prix nous avons été rachetés, sachant le prix qui a été payé. Et l'apôtre de continuer à nous émerveiller lorsque, dans la poursuite de la lecture, nous sommes comme saisis de vertige devant la grandeur du plan divin, du projet de Dieu, à cause même de son amplitude, une amplitude à nous couper le souffle. Qu'est-il dit ? Eh bien, d'une part, c'est écrit dans le texte, ça n'apparaît pas dans la traduction, mais d'une part, cet agneau est prédestiné avant la fondation du monde. Et d'autre part, c'est aussi dans le texte, il est manifesté sur la fin des temps. Voyez les deux repères qui nous sont donnés pour que nous prenions conscience de ce qui s'est passé, que de ce moment d'intense émotion du calvaire. Cela a été prévu avant la fondation du monde, se manifeste à la fin des temps. Sur la fin des temps. Quelle amplitude! Quel temps s'est écoulé! Nul ne saurait le dire à part Dieu, puisque le projet est né avant le temps et qu'il vient se manifester sur la fin des temps. Alors, une petite note en passant. Depuis ce moment-là, nous sommes entrés dans la fin des temps. D'autres textes de l'Écriture nous le montrent. Voyez qu'il n'y a pas tout à fait la même perception entre l'expression de Dieu et notre expression. Ça fait 2000 ans que nous sommes dans la fin des temps. À notre échelle, disons qu'on n'y a jamais vraiment été si près. Parce que le bout du bout arrive. Mais déjà, Dieu considère que c'est la dernière partie qui s'amorce et Dieu manifeste son projet de cette manière-là. Il nous précise que Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a été offert en sacrifice comme un agneau, comme une victime propitiatoire ou expiatoire, était connu d'avance. C'est la traduction littérale du mot. Connu d'avance. Prédestiné à cela. Avec le même mot qui nous concerne, nous. Élu selon la préscience de Dieu. Chapitre 1er, versets 1 et 2. Élu selon la préconnaissance de Dieu. Préconnu, nous l'étions aussi. Le mot est utilisé pour nous. dans ce que nous appelons la prédestination, mais que nous avons de la peine à comprendre aussi que le Fils et lui-même étaient prédestinés à cette fin qu'a été la sienne. Alors là, j'allais dire, le mieux ce serait de se taire et d'adorer. Marquez une pause. Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous a choisis. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est la grâce, purement la grâce, qui a fait cette œuvre-là. Nous ne pouvons pas la cerner, nous ne pouvons pas l'expliquer. Nous ne sommes pas différents de nos voisins de palier ou de maison. Et pourtant, nous avons été visités par Dieu qui est venu nous parler. Mais convenez avec moi que nous comprenons encore moins qu'avant même que Dieu ait pétri Adam et Ève, avant qu'il n'ait fait le monde, donc bien avant Adam et Ève, déjà dans son projet, il y avait le Fils, connu d'avance, prédestiné à monter sur une croix. Je ne peux pas vous l'expliquer. Je ne peux, encore une fois, que m'incliner, adorer. Dieu savait ce que nous allions devenir et Dieu nous a aimés et a prévu tout de suite la solution à notre révolte avant que la révolte ne s'exprime. Bien sûr, la solution facile eût été de dire, mais puisque Dieu savait tout cela, il n'avait pas besoin de créer le monde. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, nous demanderons pourquoi il l'a fait malgré tout. J'ai une amorce de réponse. Elle est dans le texte. Ce qui s'est passé avant la fondation du monde. Voici que Dieu le met en évidence sur la fin des temps. C'est le sens du mot qui est ici lorsqu'il est dit « manifester à la fin des temps ». Il est mis en évidence au jour J. Dieu manifeste, Dieu rend clair, Dieu rend visible, si j'ose dire, Dieu rend lisible son projet. Voici que, au moment venu, l'accumulation des prophéties concernant cet événement et voit plutôt leur accomplissement se précipiter en quelques années. C'est très peu, c'est un souffle, c'est une vapeur. Une trentaine d'années. Une trentaine d'années, c'est peu. Mais en une trentaine d'années, tout s'accomplit. Depuis la kénose, ce qui veut dire l'abaissement du Fils de Dieu à sa condition humaine, jusqu'à son élévation dans la gloire, en quelques années, tout est accompli. Le reste, ce qui est à venir, reste somme toute peu de choses. Bien que cela marque la fin du projet dans sa réalisation finale. Impressionnante grandeur que celui du plan de Dieu, dans la durée, mais aussi par les moyens mis en œuvre pour le réaliser. Et voici que, surprenant au possible, un petit élément intervient. L'avez-vous remarqué? Je pense que oui. Prédestiné avant la fondation du monde, dit le verset 20, manifesté à la fin des temps, poursuit ce même verset en ajoutant à cause de vous. À cause de vous, les lecteurs. Alors nous pourrions peut-être dire tout aussi bien à cause de nous. Manifester ainsi pour que nous sachions, pour que nous comprenions, pour que nous puissions être placés devant l'évidence de l'amour de Dieu. C'est à cause de nous que tout est devenu ce que nous savons être devenu. C'est pour que les hommes aient enfin la possibilité de saisir ce que Dieu est ou veut être pour eux. Quel extraordinaire développement que celui dû à la plume de l'apôtre Pierre, inspiré, je crois, par l'Esprit même de Dieu. Là se trouve, dans l'énoncé des bénéficiaires de cette prédestination de l'agneau de Dieu voué à la croix, là se trouve la raison suprême de cette mise en évidence. Dieu a voulu être compris. Et ce, en principe, de manière irrésistible, sous peine de passer à côté de ce qu'il a proposé. Le drame est que pour beaucoup, il en est ainsi. Alors, pour terminer rapidement, parce qu'il me faut maintenant accélérer le pas, nous nous trouvons en présence d'un ensemble d'éléments où nous voyons l'interdépendance entre le choix de Dieu, l'acceptation du Seigneur, car il accepte, les verbes sont utilisés à la voix passive, au mode passif. Il accepte jusqu'au jour où lui-même dira « Me voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté ». Donc, il est participant d'un choix qui a été fait, dont il est lui-même l'élément fondamental, le seul élément, et ensemble, ils agissent pour quoi? Pour que nous, les lecteurs, vous, nous, pour que vous, dit-il ici, ayez foi dans le Dieu qui a permis que Jésus soit sacrifié, mais l'a relevé d'entre les morts, lui a donné la gloire, l'a relevé ainsi, afin que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Pour que ces divers éléments, prenant chacun sa place, viennent nous conforter dans notre démarche de disciples de Jésus-Christ. Extraordinaire tableau. Je vous invite à relire ces passages. Peut-être accepterez-vous encore une petite lecture. Je voudrais la faire comme étant une conclusion. Voici dans 1 Jean 4, les versets 14 et suivants. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme le Sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Vous voyez cette interférence des textes bibliques pour pouvoir nous dire que oui, nous devons marcher dans la crainte pendant le temps de notre séjour à l'étranger, mais dans l'amour que Dieu nous a témoigné et que nous sommes appelés à lui témoigner, alors l'amour parfait bannit la crainte. Que Dieu remplisse nos cœurs d'une telle certitude dans un amour toujours croissant pour lui. Amen.